Histoire des îles Marquises, de Akakayo te Henua Enana, te Fenua Enata. Une série de 60 émissions conçues, réalisées et racontées par Jacques Jacopo Pello.
Chers amis des îles Marquises et du reste du monde, Ta'ohanui et bienvenue dans cette 33e émission,
édition 2023.
Les deux derniers épisodes nous avaient fait découvrir le passage de deux navires français en 1818 et 1822. Au cours de la décennie 1820-1830,
nous avions aussi été les témoins du retour des pasteurs protestants, dont la présence va s'intensifier, encouragés qu'ils sont, par la conversion de Pomare II et de son peuple tahitien, avant 1820. En 1830, grâce aux avancées techniques, la chasse à la baleine s'intensifie. Les navires baleiniers font des escales de plus en plus nombreuses, conduisant à terre des dizaines d'hommes privés de femmes pendant des mois. À bord de ces bateaux, il y avait aussi probablement le moustique Aedes filariosis, vecteur de la filariose, et de l'éléphantiasis, qui est arrivé aux Marquises au cours de ces années 1830, provoquant les dégâts que l'on sait et qui nous oblige à prendre en masse de la notésine et du zentel chaque année afin de réduire les risques de contamination. En raison aussi d'une grande sécheresse provoquant la famine, le père Mathias Gracia écrit qu'au cours de l'année 1830 donc, des Taipis se rendent à Eyao où ils massacrent une partie de la population. En 1831, en août, c'est la tournée d'inspection du pasteur David Darling, missionnaire de la LMS, la London Missionary Society, la Société Missionnaire de Londres. Il escorte 5 pasteurs tahitiens et un Enana converti avec leur famille. À Tahuata, il installe Tiawairau, Fa'ai et Fa'ana, d'origine marquisienne mais instruit à Tahiti. À Fatuiva, il dépose Fa'atea et Tauvini. Ces derniers tiendront jusque vers la fin de l'année suivante, mais ceux restés à Tahuata devront partir, suite à l'adultère de l'un d'entre eux. Ce qui fait dire à Tiotete qu'il ne veut plus de pasteurs tahitiens, mais qu'il veut des pasteurs blancs. En 1832, en octobre, c'est le bref séjour de 5 jours de missionnaires américains de Hawaï cette fois, dirigés par le pasteur M.C. Alexander, qui arrive sur le navire Missionary Packet. On note des contacts amicaux avec Iotete à Tahuata. À Taiohae, le chef régent, Hape ou Haape, est plus méfiant quant à la religion. Concernant la mort et la résurrection de Jésus, les Enana ne pouvaient pas croire que quelqu'un de mort, enseveli et ressuscité, pouvait être un dieu étour. Néanmoins, il accepte d'échanger son nom avec l'un des missionnaires et lui donne sa femme.
On ne connaît pas la réaction du missionnaire, ni celle de la femme du chef d'ailleurs.
Il lui promet aussi un terrain et une maison pour leur retour. Puis les pasteurs repartent en passant par Huapo, Tahuata et Fatuiva avant de retourner vers Hawaï. À propos de Hape, il faut se souvenir qu'en 1832, Te Moana, fils de Paka'uoteii et arrière-petit-fils de Kiatonui, n'a que 10 ans. Et depuis que son père est décédé, ce sont ses oncles maternels qui lui servent de régent. Ce sont les frères de sa mère,
Tau'a Tukehomo.
En novembre, le navire Indépendance fait escale à Taipiva, où des incidents éclatent entre les Enana et le forgeron du bord qui s'appelle John Atwood. Cette même année, 2 Américains sont tués par les Enana pour avoir violé un tapu. Vous vous souvenez du Robarts qui avait vécu à Taiohae de 1799 à 1806? Eh bien, cette année 1832, il meurt à Calcutta, en Inde. En 1833, du 10 août au 9 avril 1834, le même pasteur que tout à l'heure, M.C. Alexander, revient à Taiohae comme prévu, mais cette fois avec sa femme et un fils de 2 mois, accompagné de 2 autres couples de pasteurs, les Parker et les Armstrong, avec chacun une fille en bas âge.
Si c'est la première fois que les Enana voient des femmes occidentales à Taiohae, ce n'est pas la première fois qu'ils voient des enfants. On se souvient en effet qu'en 1813, le Commodore Porter était accompagné de son fils David Junior, âgé de 10 ans, qui, une fois accompli ses travaux d'écolier tous les jours, passait beaucoup de temps avec ses amis marquisiens, auprès desquels il avait, entre autres, appris à nager.
Ils ont aussi avec eux des serviteurs hawaïens, des meubles, du linge et une vache embarquée à Tahiti pour nourrir leurs enfants. Un mois après, le 2 septembre, Alexander fait son premier sermon de 2 minutes en langue marquisienne. Il avait été rédigé par William Morrison, l'écumeur de grève dont nous avons déjà parlé, et qui leur servait d'interprète. Et maintenant un grand moment dont nous n'aurions jamais eu d'écho si le pasteur Alexander ne l'avait écrit dans son journal, retranscrit par Greg Denning. Il s'agit du mariage de Temoana et de Apekua qui eut lieu le 19 septembre 1833. Alexander nous dit que Temoana est âgé de 12 ans environ, ce qui correspond puisqu'il serait né vers 1821. Après avoir subi son premier tatouage, Temoana, jeune Hakaiki de Teii,
épouse sa cousine Apekua, même âge, fille aînée de Paetini et de Temanunuio Teii, chef des Teava'ani de Ho'oumi. Temoana et Apekua sont donc tous deux arrière-petits-enfants de Kiatonui par différentes lignées. L'allusion que fait Alexander au tatouage de Temoana est intéressante car les portraits de Temoana que nous connaissons ne laissent apparaître aucun tatouage. En 1842, Max Radiguet écrira que Temoana est le seul des chefs à ne pas être tatoué. Peut-être son tatouage se trouvait-il dans son dos.
Temoana a les cheveux rasés, à l'exception de 2 touffes de chaque côté. Les cheveux coupés ont été enfouis dans son enclos tapu. Il est vêtu du hamihiapo, ce pagne en tapa rouge d'écorce de banyan, tumuao, réservé aux fils de chef et aux chefs, et il porte autour du cou un collier de dents de cachalot, taki'ei. Sa tête est ornée d'une couronne de longues plumes de coq,
ta'avaha,
et sur son front se dresse une barbe blanche de vieillard, pavahina. Ses poignets sont ornés de bracelets de cheveux humains, topepu ouoho, et ses chevilles de bracelets identiques, poe ouoho. Séparé de la sorte, qu'il rejoint à pied sa fiancée dans une autre vallée, dont Alexander ne précise pas le nom. Assise à l'avant d'un paipai du tohua de son clan,
Apekua disparaît sous les bandes de tapa blanc.
Sa taille est ornée d'un ceinturon de tapa rouge. Elle est assise sur les genoux de sa tante paternelle la plus âgée, et 2 autres femmes les entourent. Ils entrent ensuite dans l'habitation Ha'e sur le Paipai, et devant eux, on place le Etuavahi, une poignée de branchages divinatoires enveloppés dans du tapa blanc. L'objet, symbole de la divinité tutélaire protectrice, provient du Me'ae de la famille de la jeune fille.
Suivent les Uta, chants sacrés, lascifs et langoureux, puis viennent
les danses et le festin Kainamao. Durant les cérémonies, un pekiyo, mari secondaire, est déjà au service du jeune couple. À la fin des cérémonies, la compagnie se dirige en procession vers la grande plage guidée par un guerrier Toa, un chantre Tuhuka O'oko et un grand prêtre Taua. La foule qui les accompagne apporte des présents et crie Ka'oha en marchant. De là, ils reviennent au Tohua de Temoana, peut-être Mauia ou Kanino Hawaiki. Tous ces gestes et cérémonies assurent la continuité du clan, l'union des différents lignages, reliant le passé au présent par leur déroulement fidèle à la tradition.
Wa mate to puhue ki itea ala utaki to puhue enanako e to ki patutiki patutiki ya no me anui. No me anui, hoite te kao, hoite te kao. Adai mai au, e Etama enana Avaimayau Avaimayau Etama enana enana Evehine enana hoitau epokui epokui otau toiki ai hoitou tupuna tupuna inei tupuna inei tupuna inei iyo inei e tupuna no tehenu a enana nei otu tau tuiki tau koupuna e ori whakamai ato no te matava a no te matava a no te matava a Avae mai au, avae mai au E tama e nana Avae mai au, avae mai au E tama e nana, e nana
En novembre 1833, les trois maisons d'habitation des pasteurs sont terminées, mais leur évangélisation ne progresse pas en raison d'une incompatibilité intrinsèque de mentalité. Leur façon de promouvoir la parole divine ne convient pas du tout aux Enan. Le 5 décembre, c'est la mort de Hape, Haape, chef des Teihi de Taiohae, oncle maternel de Temoana, comme nous l'avons déjà dit. Deuxième régent de la chefferie depuis la mort de Pakaʻuʻo Teihi, il avait succédé à son frère Piunaiki en attendant la majorité de son neveu. Il sera remplacé par un autre oncle maternel de Temoana, Hopewehine,
quatrième régent.
Et c'est à nouveau le pasteur américain Alexander qui raconte les cérémonies de funérailles du chef Hape. Comme signalé plus haut, le vieillard paralytique avait lui-même veillé à la fabrication de son cercueil Pa'aha,
qui était une pirogue funéraire marquisienne traditionnelle.
Lorsqu'il mourut le 5 décembre, Taiohae retentit des coups de fusil, du son des conques marines Putoka et des cris. Les femmes, repliant le pagne Eu-Eu par derrière pour exposer leur nudité, dansent toute la nuit devant la dépouille du défunt. C'est la danse qu'on nomme Heva, et comme elles se dansent nues par signe de deuil, c'est de nos jours cette signification de deuil, être en deuil, que ce mot a gardé et que la langue marquisienne partage avec le tahitien.
Contrairement à ce qui a été écrit parfois par des occidentaux, cette danse n'était pas destinée à réveiller le mort devant tant de beauté dévoilée, mais bien une danse exceptionnelle au cours de laquelle les femmes dévoilaient ce qui était normalement réservé à l'intimité. On nomme encore cette danse Toeheva ou Heuhu.
Son épouse lui scelle les yeux, les narines, les oreilles et la bouche afin d'empêcher son esprit de s'évader rapidement. Elle entreprend de lui masser la peau à l'aide d'onguents adaptés, huile de coco parfumée, huile de bancoul et jus de canne à sucre. Elle dort à côté du défunt et on doit la nourrir car ses mains, devenues tapous lors des massages, ne peuvent pas toucher la nourriture. Pendant 4 jours, les pleurs et les chants continuent. Les hommes de la classe tapu viennent manger ensemble près du défunt.
Tous ces détails nous rappellent la description faite en 1822 par Lafond de Lurcy des cérémonies suivant la mort du chef Keatoy. Et on verra en 1844 Radiguet nous raconter les mêmes cérémonies pour les funérailles de Niehitu, troisième régent et oncle maternel de Temuane.
Comme le Taua n'a pas demandé de victimes humaines, Heaka, des visiteurs des autres vallées, Hapa'a et Taioa, viennent s'associer au deuil et déposent des offrandes de porc sur le Me'ae familial. Les Taipi sont absents en raison d'hostilités en cours avec les Teihi comme d'habitude. Le 22 décembre, soit 16 jours après le décès, le corps de Hape est porté dans le lieu tapu de son dernier repos. Son épouse, accompagnée de nombreuses autres femmes, reste avec lui jusqu'au 5 janvier, date à laquelle son corps déjà décomposé est enveloppé dans un linceul de tapas blanc po'o'o et dressé sur une plateforme montée sur échafaudage. On pose alors tous ses couvre-chefs et ses ornements d'apparat à ses côtés. Les autres chefs Teihi et alliés viennent ensuite partager un repas rituel mao à ses pieds afin de perpétuer le souvenir du défunt chef. En effet, si l'esprit du mort ne semblait pas inspirer la moindre crainte, il était primordial de préparer la perpétuation même altérée du défunt, dont la présence constituait encore un lien avec les vivants. La même nuit, c'est la mort d'étouffement de l'écumeur de grève William Morrison. Les missionnaires protestants décident de l'enterrer, mais rencontrent l'opposition farouche de sa femme marquisienne et de sa famille, pour laquelle il était sacrilège de prendre le risque d'enterrer quelqu'un et de voir les gens marcher au-dessus de la tête du défunt. Nous avons parlé du tapu de la tête des Marquisiens. Néanmoins, les missionnaires creusèrent une tombe où Morrison fut enseveli. Ils renoncèrent à dissuader le beau-frère du défunt de jeter un porc rôti à ses côtés. Enfin, les missionnaires firent des prières et comblèrent la tombe. De décembre à janvier 1834, les Taipi ne cessent de venir narguer les Teihi depuis les crêtes avoisinantes. Cette année-là, le capitaine Dean du Elizabeth trouve la mort pour être revenu sur sa parole d'échanger une baleinière contre des cochons. Désormais, les Enana laissent éclater leur colère dès qu'ils constatent qu'on se moque d'eux. En 1834, le 17 janvier, à la grande surprise des pasteurs, les 4 chefs de Taiohae déclarent Tapu le dimanche, jour du Seigneur, et demandent à la population d'assister au culte. Les missionnaires croient au miracle, mais déchantent rapidement quand les chefs, afin de célébrer Jéhovah plus dignement, réclament des livres et de beaux vêtements. Les missionnaires leur font comprendre qu'ils ne peuvent accéder à leurs requêtes, et plus personne ne revient à l'office dominical. Il est utile de savoir que les livres étaient très recherchés, car leurs pages déchirées servaient à fabriquer des cartouches. En résumé, et dans le cadre même de leur enseignement, les pasteurs américains croyaient, tout comme du Petit Thouars l'affirmera 10 ans plus tard, et je cite, « qu'il fallait persuader les insulaires de désirer les bienvenus de l'Occident au point d'être prêts à travailler pour les obtenir. Le travail en vue de l'obtention de gages qui permettent d'acheter des biens, ferait acquérir la discipline de vie qui est à la base de la civilisation. Civilisés, ils deviendront naturellement chrétiens. »
Avec le recul, il nous est aisé de mesurer le décalage qui existait entre la vision européenne et la vision polynésienne du monde. Un décalage qui perdure de nos jours, en dépit des années écoulées depuis ce commentaire.
Le 23 mars, le Royal Sovereign, capitaine W.J. Green, fait escale à Taiohae. Temuana s'y embarque en cachette de nuit. Il ne reviendra qu'en 1839, 5 ans après, laissant sa famille sans explication, en plein désespoir. Mais le désespoir ne touche pas que la famille de Temuana. Le 16 avril, après une visite infructueuse à Taipivai, les 3 couples de pasteurs quittent définitivement Taiohae sur le navire Benjamin Rush. Lassés de leurs vains efforts, ils ont vécu dans la crainte et le dégoût d'un peuple auquel, de par leur mode de vie, ils ont échoué à s'adapter. Deux de leurs serviteurs hawaïens restent sur place et laisseront une trace indélébile et mortelle en apprenant aux Enana comment fabriquer de l'alcool de coco Namu Ehi. Chers amis, c'est avec ces deux départs cruciaux que s'achève cette émission. La prochaine fois, nous terminerons l'année 1834 à Waitahu, qui verra l'arrivée de nouveaux pasteurs protestants, mais anglais cette fois, donc plus têtus et plus décidés à rester que les Américains. À bientôt pour la suite de cette histoire touchante et passionnante des îles Marquises. Rejoignez-moi sur ma page Facebook Teeo et sur mon site internet teeo.com. Et merci à Jean-Michel Ségur pour sa belle chanson Te Tama Enana,
Enfant des Marquises, dans laquelle l'artiste métropolitain d'origine explique comment il a fait sienne la culture marquisienne. Il s'est fait tatouer, son épouse est marquisienne et ses enfants seront de vrais marquisiens.
Si une question vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail copo@mail.pf ou sur mon Vini 87 756 719. À bientôt, à Pai, au Oahu.
No te ati e nata.